France Inter.
Corinne Audouin, bonjour Corinne.
Bonjour à tous. En Indre-et-Loire, les habitants respirent la crue de la Vienne et restée sous les prévisions, la ville de Chinon notamment échappe à l'inondation. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Dans l'actualité aussi, la bataille d'Istanbul au cœur d'une élection test en Turquie. Le camp Erdogan espère récupérer la ville. En ce dimanche de Pâques, on s'intéressera aux petits producteurs de cacao qui ne touchent pas vraiment le fruit de leur labeur. Pourquoi pas une compétition de Rubik's Cube pour occuper ce week-end prolongé. Le classico de la Ligue 1 de foot au MPSG au programme du Journal des Sports de Guillaume Batin. Avant, votre invité à 8h20, Ali et Marion.
On croyait tout savoir sur les impressionnistes. Faux, elle a encore des tas de choses à nous apprendre, à vous apprendre. Sylvie Patry, conservatrice générale du patrimoine, est notre invitée. Elle est co-commissaire de l'exposition Paris 1874, Inventer l'impressionnisme, qui vient de démarrer au musée d'Orsay.
Une exposition événement. Vos questions, vos témoignages sur votre passion pour la peinture et les impressionnistes en particulier, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter.
France Inter.
On redoutait une crue centennale, comme le département n'en a pas connu depuis 1913. L'Indre-et-Loire, tout comme la Vienne, sont en alerte rouge. Une alerte rouge décrétée par Météo France face à la montée des eaux. Les résidents d'un EHPAD au bord de la Vienne ont été évacués cette nuit. Heureusement, ce matin, les nouvelles sont plutôt rassurantes. L'épisode semble assez limité. À Chinon, le niveau de la Vienne est monté dans la nuit, bien moins que ce qui était anticipé. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux sur place. Johanna Gabrick et William Delesseux. Bonjour William.
Bonjour Corinne.
Alors Chinon devrait rester les pieds au sec.
On voit toutes les arches du pont routier au-dessus de la Vienne. Beaucoup d'eau certes, mais le fleuve reste dans son lit, est venu constater cet habitant. Pierre Tabarot relève le niveau de l'eau sur l'échelle en contrebas.
Donc pour l'instant, elle est à 4,80. 4,80 m. Tant mieux. C'est une bonne nouvelle.
Et vous me disiez, vous avez eu peur cette nuit. Qu'est-ce que vous avez fait ?
J'ai passé la nuit blanche. Mais comme ça a l'air d'être... Ils ont été beaucoup plus alarmistes, je pense que... Tant mieux, c'est une bonne nouvelle.
4,80 m et pas 6 m, comme le prévoyait Vigicru ici. Le marché s'installe, poissonnerie, rôtisserie dans le centre-ville. Le pic de la crue est attendu à la mi-journée, d'après le maire, le divers droit de Jean-Luc Dupont, très étonné du niveau beaucoup moins élevé de la Vienne. Que s'est-il passé alors avec les prévisions ?
J'ai le sentiment qu'ils sont plantés. Je pense qu'il y a eu une erreur à un moment donné. Hier après-midi, dans la salle des crises, on était plus de 40 à être réunis pour pouvoir bâtir la stratégie. Bon, on a fait une révision grandeur nature de notre plan communal de sauvegarde sans incidence, donc c'est tant mieux.
La préfecture confirme que le pic de crue a été révisé à la baisse sur la Vienne. On sera autour des 5 mètres dans la journée. Une inquiétude en revanche autour de la Creuse, l'autre fleuve au sud-est du département. Une centaine d'évacuations préventives ont eu lieu au total en Indre-et-Loire.
Et merci William Delesseux avec les moyens techniques de Johanna Gabrick. Et la décrue va être très lente et j'ajoute que 4 départements sont toujours en vigilance orange aux crues, la Charente-Maritime, la Gironde et la Dordogne.
Après les opérations Place Nette contre le trafic de drogue, le gouvernement prépare un nouveau plan d'action.
Oui, des opérations coup de poing très médiatisées comme à Marseille il y a 10 jours, mais dont l'efficacité sur le long terme reste à prouver. Alors après un premier plan de lutte contre le trafic de stupéfiants il y a 5 ans, Matignon travaille à une nouvelle stratégie. Elle sera présentée dans quelques semaines devant la commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic. Policiers et magistrats ont déjà expliqué, Sarah Guibaudot, ce dont ils avaient besoin.
Le premier plan stup a permis de cartographier les points de deal, il y en a encore près de 3000, et de déployer l'OFAST, l'Office de police anti-stup. Face à la menace, il faut aller plus loin, estiment les sénateurs, qui jugent les services de police encore dispersés. La lutte contre les trafics, c'est quel numéro ? Les policiers veulent développer les enquêtes sur les réseaux sociaux. Les magistrats plaident pour une cour d'assises spéciale pour les assassinats liés au narcotrafic pour éviter les pressions sur les jurés populaires. Tous veulent revoir le statut du repenti à la française qui ne fonctionne pas. On a besoin de renseignements humains. Policiers et magistrats reconnaissent que le maillon faible, c'est la saisie des avoirs criminels. On manque d'enquêteurs financiers face au circuit de blanchiment qui permet aux trafiquants d'investir dans l'immobilier à Dubaï. Il faudrait aussi plus de coopération internationale, en particulier dans les ports par où passe la drogue. Devant le Sénat, le directeur de la police nationale, Frédéric Vaux, l'a répété « Nous n'avons pas pour ambition d'éradiquer le trafic. Ce n'est malheureusement pas possible, mais il faut mener la lutte partout. »
Et les conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur le narcotrafic sont attendues dans un mois et demi. Le lycéen de 17 ans qui a reconnu avoir envoyé des centaines ou des dizaines de messages de menaces de mort à des collèges et lycées a été mis en examen. Arrêté jeudi matin à Malakoff, l'adolescent n'a pas d'antécédents judiciaires de même nature, indique la procureure de Paris. Il a été placé en détention provisoire. Et puis une enquête pour provocation à la haine raciale ouverte par le parquet d'Épinal après la découverte vendredi d'une tête de sanglier près de la mosquée de Contrexéville dans les Vosges, en plein mois du Ramadan. Sur le réseau social X, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, condamne fermement ces actes inacceptables contre nos compatriotes musulmans.
En Turquie, Istanbul va-t-il revenir sous l'influence du président Erdogan ?
C'est l'un des enjeux des élections municipales dans le pays. Aujourd'hui, Istanbul, le trésor national, avait échappé au camp du président turc il y a 5 ans, basculant dans l'opposition. Les bureaux de vote ont ouvert il y a 1 heure. Istanbul, c'est la mère des batailles pour le chef de l'État qui s'est personnellement impliqué dans la campagne pour faire battre le maire actuel, Ekrem İmamoğlu. Sur place, Marie-Pierre Véraud.
La voix éraillée, visiblement marquée par ces semaines de campagne, İmamoğlu harangue ses partisans dans un quartier éloigné du centre-ville. Il dénonce un pouvoir qui trouve des milliards pour de grands travaux, mais pas pour augmenter salaires ou pensions de retraite. Il engage les électeurs à se mobiliser, conscient que la tâche sera rude. L'opposition s'est morcelée après la présidentielle et se présente en rang dispersé. Au même moment, Murat Kurum, le candidat du parti au pouvoir, dénonce un maire qui n'a rien fait pendant 5 ans et promet d'y remédier, de construire routes et métros. C'est l'axe d'attaque du président Erdogan. Il a chargé Kurum de reconquérir sa ville, de venger l'humiliation de 2019. Une question de revanche qui n'est pas exempte d'arrière-pensée plus matérialiste, Berkesen, politologue.
La métropole d'Istanbul dispose d'énormes moyens. Cela en fait un poste politique très important. Parce que le maire contrôle une masse de ressources publiques qu'il peut distribuer au bénéfice de millions d'électeurs qui ensuite pourront choisir son parti lors des élections nationales.
Il est d'usage de dire que qui gagne Istanbul gagne la Turquie, d'où l'implication personnelle du président Erdogan dans la campagne. Il n'entend pas laisser le pays à l'opposition en 2028. Istanbul, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Deux nouveaux pays entrent dans l'espace Schengen, la Bulgarie et la Roumanie. Leurs ressortissants peuvent désormais circuler librement dans les aéroports et les ports maritimes de la zone qui regroupe 25 pays membres de l'UE, plus la Suisse, la Norvège et l'Islande. Les contrôles sur les routes restent cependant en vigueur en raison d'un veto de l'Autriche. La suite du marathon du pape à Rome, dans 1 heure depuis la basilique Saint-Pierre, François présidera la messe de Pâques avant la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. À 87 ans, sa santé sera aussi scrutée que ses propos sur l'état du monde.
De la messe de Pâques au chocolat, il n'y a qu'un pas.
Mais cette année, le prix du cacao bat tous les records. 10 000 dollars la tonne, c'est du jamais vu, un coût qui va se répercuter sur le prix du chocolat. Pourtant, beaucoup de petits producteurs de fèves de cacao ne verront pas la couleur de cet argent. Le secteur est encore très loin d'être durable et équitable. Explication depuis la Suisse, bien sûr, de Jérémy Lanche.
Lorsque vous mangez un carré de chocolat, vous avez à peu près 70% de chances que le cacao qui le compose proviennent du Ghana ou de Côte d'Ivoire. Vous avez aussi de bonnes chances qu'un enfant ait récolté les fèves, explique la chercheuse Dorothée Baumann-Poli, à l'origine d'une étude sur le sujet pour l'Université de Genève.
L'industrie du chocolat a toujours été propice au travail des enfants parce que la plupart du cacao provient de petites exploitations. Ça concerne 90% du cacao produit en Afrique. Et bien évidemment, dans les familles nombreuses, les enfants participent à la récolte.
On estime que la moitié des producteurs de cacao vivent sous le seuil de pauvreté. Alors pour qu'ils puissent vivre de leur travail, il y a toujours le commerce équitable. Éric Garnier, cofondateur de la marque Shoba Shoba, a lui carrément décidé d'en faire des actionnaires.
Notre but, c'est vraiment de prouver qu'ensemble, on peut produire un chocolat de la plus haute qualité tout en créant un impact concret et positif sur le terrain. Donc on s'inscrit dans la logique du commerce équitable, mais on va plus loin à travers la copropriété de l'entreprise de chocolat avec les producteurs.
Le modèle a un coût, une tablette de chocolat 2 à 3 fois plus chère pour le consommateur, mais avec la garantie que le cacao n'a été ni récolté par des enfants, ni n'a contribué à la déforestation. À Genève, Jérémy Lange, chez RFI pour France Inter.
Elle existe depuis 15 ans, la Journée internationale de la visibilité transgenre. En ce 31 mars, elle est célébrée pour la 7e année en France. Alors, il n'existe pas de statistiques officielles, mais la Haute Autorité de Santé estime que la transidentité concerne entre 0,5% et 2% de la population en France, c'est-à-dire des personnes dont l'identité de genre ne correspond pas à leur sexe de naissance. Une minorité souvent stigmatisée, discriminée, y compris pris par des élus, déplore Béatrice Denès. Elle copréside l'association Trans Santé France.
On essaie de nous faire passer pour des espèces de monstres, parce qu'en effet on est une minorité, donc c'est plus facile de nous attaquer. Le dernier exemple en date est le rapport des sénateurs LR contre les enfants trans, qui en fait demande une loi pour interdire la transition des enfants, mais en s'appuyant sur des contre-vérités, en demandant par exemple le fait qu'il n'y ait aucune opération chirurgicale, aucun traitement hormonal avant 18 ans, c'est déjà ce qui existe. On essaie d'utiliser vraiment des procédés, moi je trouve ignobles, pour faire peur à ceux qui n'y connaissent rien, et on en arrive à la violence et à la transphobie. Pourquoi finalement les enfants trans, les ados trans et les adultes trans n'auraient pas le droit de vivre leur vie comme ils l'entendent? C'est pas un choix, mais qu'on soit considéré comme n'importe quelle citoyenne et citoyen.
Béatrice Denès de l'association Trans Santé France avec Alice Cachaner. On termine avec une compétition au goût de nostalgie des années 80 pour certains. Le championnat de France de Rubik's Cube. Ça se passe à Saverne en Alsace jusqu'à demain avec des épreuves complètement dingues comme une compétition de Rubik's Cube les yeux bandés. Paola Guzzo de France Bleu Alsace a rencontré des fanatiques du cube multicolore.
C'est un bruit que l'on entend dans toutes les salles de la compétition, parce qu'ici tout le monde fait du Rubik's Cube. Antoine a 13 ans, il vient de Lyon et c'est sa 3e compétition.
C'est un ami qui m'a montré comment on faisait, et puis c'est rapidement devenu une passion. C'est assez addictif parce qu'on a tout le temps envie de s'améliorer et j'ai encore plein de choses à découvrir, je pense.
Beaucoup sont venus accompagnés de leurs parents qui filment tout ou sont eux-mêmes tombés dedans, à l'image de Christophe qui vient des environs de Chartres.
C'est mon fils qui a commencé le cube il y a 2 ans et à mon tour je me suis mis à faire du cube. Alors moi je le fais de façon très modeste, histoire de participer un petit peu. Voilà, maintenant je suis tout. Vous voyez, c'est impressionnant. J'ai fait des pronostics, je regarde des chaînes YouTube. Voilà.
Les participants sont en majorité des garçons. Ils ont entre 10 et 20 ans, mais il y a quelques exceptions comme Johan.
J'ai absolument aucun objectif ce week-end en fait. Voilà. 48 ans, je suis là que pour m'amuser. Alors, je dois peut-être être dans le top 10 des personnes les plus âgées. Voilà.
Le championnat cette année a été organisé par Valentin Hoffmann. C'est avant tout l'occasion de se retrouver entre passionnés.
Il y a cette notion de compétition, de challenge. Nous, personnellement, entre nous, on parle de sport. Pour nous, c'est plus qu'un jeu parce qu'on partage de bons moments. On est tous réunis en fait par la même idée, toujours partager en fait nos techniques pour pouvoir en fait s'améliorer et franchir des étapes.
L'un des moments incontournables de la compétition a lieu aujourd'hui, c'est l'épreuve de 3x3, le Rubik's Cube de notre enfance.
Allez tous à nos cubes, Paola Guzzo de France Bleu Alsace.
8h13 sur Inter, l'heure du journal des sports.
Avec Guillaume Batin ce matin, bonjour Guillaume.
Bonjour Corinne.
Romain Tamac a réussi son retour en top 14, c'est du rugby.
Ouais, il était très attendu après sa blessure au ligament croisé il y a presque 8 mois. Il n'a pas déçu hier soir, Romain Tamac est entré en jeu avec le Stade Toulousain pour sceller la petite victoire, mais victoire quand même à Pau, 31-29. Et les supporters, parfois venus de très très loin, sont repartis enchantés.
Pas mal d'émotions qui se mélangeaient en même temps, l'arrivée au stade, la semaine. Donc voilà, c'était beaucoup d'émotions pour moi, j'essaie de me contenir pour rester concentré sur le match aussi. Ouais, il me tardait vraiment de retrouver les copains, le public, l'ambiance. Et il y avait toute cette impatience autour de moi et moi j'étais le premier impatient à vouloir retrouver les terrains. Donc j'ai travaillé dur pendant 7 mois et demi pour revenir comme il faut, pour rattraper un peu le wagon des coéquipiers parce qu'ils ont mis la barre haute en mon absence. Mais ça fait du bien de retrouver les sensations aussi.
Romain Tamac qui avouait avoir la boule au ventre avant de rentrer sur le terrain. Dans les autres rencontres de top 14, seul le Stade français s'est imposé à l'extérieur et conforte sa première place. Dernière rencontre ce soir à 21h05 entre Bayonne et Toulon dans le tournoi des Six Nations féminin. Les Bleus ont enchaîné avec une deuxième victoire après l'Irlande la semaine dernière. L'Écosse s'est inclinée face aux Bleus à Édimbourg, 15-5.
Et on attend beaucoup de monde au Vélodrome. Comme on dit, Marseille va battre un record d'affluence ce soir face au PSG.
Ce sera plein pour le Classico de la Ligue 1 en clôture de la 27e journée. Et comme les supporters parisiens sont interdits de déplacement, la tribune visiteur a été rendue aux Marseillais. De quoi remplir le Vélodrome. 66 000 spectateurs sont attendus ce soir, Bruno Blanza.
En fait, le club olympien aurait pu remplir un Vélodrome de 100 000 places pour ce Classico, tellement la demande est forte. D'ailleurs, on parle de razzia sur la billetterie. Les près de 20 000 places à la vente pour le grand public se sont vendues en 3 heures, à des tarifs très élevés, les plus élevés de la saison, voire de l'histoire des OM-PSG, avec des tickets allant de 89 à 399 euros. Sans oublier les 5 000 VIP. Si on se dirige vers un nouveau record d'affluence, c'est aussi parce que les supporters parisiens ne seront pas présents, car interdits de déplacement. En vendant les places de leur tribune, en Jambouin, environ 3000 sièges, eh bien l'OM voit le nombre de ses spectateurs grimper. Ce qui permet donc de viser ce chiffre de 66 000 spectateurs, une affluence que personne en France, à part l'OM, ne peut atteindre dans son stade.
Bruno Blanza à Marseille, hier à Monaco, l'ASM a pris la seconde place du classement après sa victoire 5-2 face à Metz. En Ligue 2, Saint-Etienne est troisième et candidat à la montée après une victoire 2-0 sur la pelouse de Valenciennes. Et puis en volleyball, c'est Nantes qui a remporté la Coupe de France hier soir, la première de son histoire, net et sans bavure, 3-7-0 face à Mulhouse.
Merci Guillaume Batin pour ce journal des sports.
Dans votre journal, Corinne Audouin, il est 8h16 sur France Inter.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Céline Dacosta, des averses pour tout le monde aujourd'hui.
Oui, mais pas tout le temps. Ce matin, par exemple, c'est encore globalement assez calme. On aura même des éclaircies sur une grande partie nord, sur le sud-ouest également, mais ça ne va pas durer. On a déjà des averses qui arrivent par la façade atlantique, hein, sur la Bretagne, sur l'Aquitaine déjà en ce moment. Les giboulées orageuses vont gagner l'ensemble du pays dans l'après-midi. Il y aura toujours une alternance de nuages, éclaircies et averses, même si sur la moitié nord, le ciel sera quand même bien couvert. Ce n'est pas vraiment le même programme pour le sud-est, où le ciel sera agité toute la journée. Avec déjà en ce moment de bonnes averses accompagnées de vent, quelques coups de tonnerre. Alors ça sera quand même un petit peu plus calme sur ce secteur à la mi-journée, mais on aura à nouveau de fortes averses en fin d'après-midi.
Le tout sous des températures assez douces.
Oui, 11 à 21 degrés du nord au sud pour cet après-midi. On est dans les normales, voire un petit peu au-dessus. Ce matin, un peu frais, mais de saison aussi sur le nord du pays. 5 degrés à Tours, 7 à Lille, 8 à Brest et Nancy. Plus doux déjà sur la partie sud. Hein. 11 à Bordeaux, 12 à Toulouse, 13 à Nîmes et 14 en ce moment à Toulon.
Merci Céline Dacosta. Merci à vous d'écouter Inter, il est 8h17, géopolitique.